Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La France et l'Algérie ont des liens profonds, animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français et ancrés dans une histoire complexe. Propos signé Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française qui s'est rendu hier à Alger. La journée nationale de la laïcité en France, la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Notre invité sera le député Vincent Ledoux, auteur de la proposition de loi visant à instituer cette journée le 9 décembre. Nous écouterons aussi Bertrand Pancher, membre du Parti radical, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée. Après l'Algérie, le président palestinien s'est rendu en Tunisie sur le consensus autour de la question palestinienne en Tunisie. Nous écouterons le président d'État catholique, Khalil Zawiya. La 34e commémoration du début de la première Intifada des Pierres, une insurrection populaire menée par la jeunesse palestinienne de 1987 à 1994. La Coupe arabe des Nations, début des quarts de finale demain. Cette compétition a débuté le 30 novembre au Qatar, 5 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Gros plan dans votre journal sur cette Coupe arabe avec Franck Orokoti, journaliste chez Africa Top Sport. Le chef de la diplomatie française s'est rendu hier à Alger. Jean-Yves Le Drian a été reçu notamment par le président algérien. Un déplacement qui avait, selon le Quai d'Orsay, pour double objectif de renouer une relation de confiance entre les deux pays. Paris évoque une relation marquée par le respect de la souveraineté de chacun. Il s'agit aussi, selon la France, de regarder vers l'avenir pour travailler à la relance et à l'approfondissement du partenariat. Le Quai d'Orsay souligne que la France et l'Algérie ont des liens profonds animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français et ancré dans une histoire complexe. Jean-Yves Le Drian a exprimé le souhait de travailler à lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays. Cette visite est intervenue au moment où les relations entre Alger et Paris se sont tendues à la suite des propos du président français début octobre sur le régime algérien et la question du passé colonial de la France en Algérie. C'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité en France. Le 9 décembre est le jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Le 17 novembre 2020, le député Agir Ensemble, Vincent Ledoux, déposait à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à instituer une journée nationale de la laïcité tous les 9 décembre. Entretien avec le député Vincent Ledoux.
J'avais souhaité cette journée nationale en proposant notamment une loi sur l'instauration de cette journée officielle, puisque il y avait déjà à l'éducation nationale un certain nombre de moments qui étaient organisés autour de cette question, avec des réflexions, des ateliers d'enfants. Et finalement, lorsque l'on faisait le bilan, qui était très très peu suivi, parce que ça, encore une fois, ça fait appel à la motivation des enseignants, ça fait appel à une dynamique en commun. Et donc je pensais, dès lors, en regardant le bilan de l'éducation nationale, qu'il fallait que toute la nation puisse participer de cet élan, en fait. Pourquoi ? Parce que la laïcité, d'abord, c'est le fruit d'un combat très 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 long, et que parfois, ce combat peut être remis en cause par des forces obscures qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir nous diviser, nous faire questionner sur la véracité du schéma que nous avons adopté il y a maintenant plus de 2 siècles. La laïcité, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, dans l'ADN de la France, et le bien commun. C'est d'ailleurs parfois ce qui est mal compris par nos partenaires d'autres continents chez qui la laïcité, ça paraît être une ovni tout à fait singulière. Donc c'est important. C'est important d'avoir, parce que le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité, mais cette laïcité, c'est une valeur, j'ai presque envie de dire, tout autant importante, parce qu'elle garantit vraiment à la fois les religions, hein, certains pensent que c'est contre les religions, mais bien au contraire, ça garantit cette liberté de religion. Pour chacun, et pour moi c'est un respect fondamental de l'être humain.
C'est une journée qui est censée rassembler l'ensemble des composantes de la population française.
Oui, alors ce qui serait intéressant, c'est que dans chaque commune, ça se fait déjà, il y ait des événements particuliers qui rassemblent la population, à la façon des commémorations notamment d'anciens combattants. Alors on sent bien que sur les différents événements de commémoration de guerre on peine à rassembler. C'est moins le cas pour le 11 novembre, qui reste la date vraiment à laquelle chacun se rallie. Mais sur les autres, c'est compliqué. Mais je pense que sur la laïcité particulièrement, on doit être en capacité de rassembler à partir du moment où on crée une dynamique dans les communes. Chaque commune devrait s'emparer, comme on le fait par exemple à Tourcoing, comme on le fait dans mon ancienne commune de Roncq, où on va planter des arbres de la laïcité, où on va réfléchir sur cette notion avec les enfants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une possibilité donnée, et c'est même d'ailleurs très très peu dans l'agenda d'une année, donnée à chacun pour s'interroger sur cette vertu principale qu'est la laïcité et tout ce qu'elle permet à chacun d'épanouissement en fait.
Et lorsque j'évoquais avec vous l'ensemble des composantes de la société française, je pensais à l'ensemble des fidèles de toute confession.
Mais tout à fait. L'année dernière, j'avais rassemblé moi-même à Alluin, dans une commune donc limitrophe à la Belgique, toutes les religions. Et c'était très, très, très intéressant. D'abord, le dialogue interreligieux entre eux, j'ai envie de dire, il est fécond. Mais lorsqu'il est aussi avec les représentants des pouvoirs civils et avec la société tout entière, ça l'est d'autant plus. On apprend beaucoup, finalement, des modes d'organisation des religions, des messages qu'ils passent, de la façon dont ils souhaitent que, finalement, la vie en société s'organise. Donc, c'est vraiment important d'être dans le dialogue des cultures en permanence. Il faut toujours dialoguer avec l'autre, même quand il est très, très éloigné. C'est ça aussi le principe même de laïcité.
Et cette loi de 1905, elle est suffisamment bien comprise aujourd'hui, selon vous, par nos concitoyens?
Je pense qu'elle est comprise comme l'air qu'on respire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à la comprendre, ils sont nés dans un espace de laïcité. Mais elle est fortement combattue. Et c'est ça mon sujet aujourd'hui, c'est de se dire, attention, on est en train de donner des petits coups de canif à la convention qu'est la laïcité, et donc il faut être prudent. Et il faut savoir de où on vient, pour savoir où on a envie d'aller ensemble, tout en se disant que la laïcité reste un principe puissamment moderne.
Et à l'occasion de cette journée, quel message souhaitez-vous adresser, notamment aux plus jeunes d'entre nous?
Simplement leur dire qu'ils ont une chance inouïe de vivre dans un espace qui est pacifié, où chacun peut pratiquer la religion qu'il veut ou ne pas pratiquer de religion du tout. Et ça, c'est un progrès formidable par rapport au siècle précédent où on n'avait absolument pas le choix. Donc, vivez heureux cette laïcité parce qu'elle vous permet toutes les formes d'expression possibles et d'être un être libre complètement en puissance.
Le député Agir Ensemble, Vincent Ledoux, sur cette journée nationale de la laïcité, entretien présent avec Bertrand Pancher, membre du Parti radical, député de la Meuse, président du groupe Liberté et Territoires à l'Assemblée nationale.
La laïcité, c'est un des fondamentaux de notre démocratie. C'est l'équilibre, c'est la liberté, c'est la justice. Et puis, c'est le fait d'affirmer que toutes les opinions sont tolérées dans notre pays, mais évidemment qu'aucune autre opinion, aucune religion est supérieure aux libertés et à notre constitution. La laïcité, c'est vraiment le ferment de notre démocratie. Et je pense qu'il est important, dans une période de troubles, de rappeler que ces fondamentaux, c'est l'identité de la France. Et je trouve très très important qu'on ait une grande journée de réflexion sur ce qu'est la laïcité et comment nous pouvons en permanence la renforcer en se basant sur les principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je crois que tout est dit dans la devise de la République.
Et à l'occasion de cette journée nationale, quel est selon vous le rôle des enseignants?
Les enseignants sont là pour rappeler en permanence ce qu'est notre République, ce que sont les droits de l'homme et ce qui fait que nous sommes dans un pays qui est une grande démocratie, que cette démocratie est évidemment fragile et qu'il faut faire attention pour qu'on chacun puisse se mobiliser, notamment dans une période où beaucoup de jeunes se demandent s'il est utile d'aller voter dans notre pays. Et bien, si nous ne défendons pas en permanence les acquis de cette démocratie, eh bien très très rapidement des mouvements peuvent faire en sorte que cette démocratie soit en péril, y compris dans des grands pays comme les nôtres.
Bertrand Pancher, membre du Parti radical, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée. Après l'Algérie, le président palestinien s'est rendu en Tunisie. Au menu des discussions entre Mahmoud Abbas et Kais Saied, les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. La question palestinienne qui fait consensus en Tunisie, comme le souligne le président d'État Katol, l'ancien ministre Khalil Zaouia.
Il y a un consensus populaire et même au sein de l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient associatifs ou partisans, autour de la question palestinienne, c'est de défendre la légalité, et la légalité est représentée par l'autorité palestinienne, qui est reconnue, et de s'aligner derrière les positions de l'autorité palestinienne dans l'attitude à prendre. Et un deuxième élément du consensus national, c'est le refus de l'ensemble de la société tunisienne d'avoir des relations avec l'entité sioniste, et tout ce qui est normalisation est totalement refusé. Donc ce sont les deux éléments clés qui guident le consensus national par rapport à la question palestinienne. C'est une attitude qui est historique et qui a été renforcée par la présence des Palestiniens à partir de 82, lorsque l'OLP est venu s'installer en Tunisie avec Yasser Arafat, et ça a créé des liens importants entre les Tunisiens et les Palestiniens, qui ont été scellés dans le sang après le bombardement de Hammam Shatt, où il y a eu des martyrs palestiniens et tunisiens ensemble. Je dirais que c'est beaucoup plus fusionnel qu'émotionnel. Vraiment, hein, le peuple tunisien et l'ensemble des acteurs, il y a une osmose avec le peuple palestinien qui est très 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 important.
Le président d'État Qatar, l'ancien ministre Khalil Zawiya. C'est aujourd'hui la 34e commémoration du début de la première intifada des pierres. Elle a duré de 1987 à 1994. Une insurrection populaire menée par la jeunesse palestinienne dans les territoires occupés par Israël. Cela à la suite du décès de 4 ouvriers palestiniens. Leur voiture avait été heurtée par un camion israélien. L'élection présidentielle en Libye se tiendra-t-elle le 24 décembre prochain? Le Haut Conseil d'État libyen, l'instance qui fait office de Sénat, a proposé hier de la reporter au mois de février, en même temps que les législatives. En cause, les désaccords qui persistent entre les camps rivaux. La Libye qui tente de s'extraire d'une crise politique majeure, une crise qui perdure depuis la chute de l'ancien régime de Muammar Kadhafi en 2011. La maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, propose une primaire aux candidats de la gauche. Alors, réponse quasi unanime des candidats, c'est non. Anne Hidalgo précise qu'elle maintiendra sa candidature si son appel n'est pas entendu, ce qui est donc le cas. La Coupe arabe des Nations, début des quarts de finale demain. À 16h, l'équipe de Tunisie jouera face à Oman. À 20h, le Qatar affrontera les Émirats. Samedi, à 16h, face à face, Égypte-Jordanie. Et à 20h, Maroc-Algérie. Cette compétition a débuté le 30 novembre dernier au Qatar, 5 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La Coupe arabe de football sert de répétition générale à 6 sélections africaines qualifiées pour les 2 événements sur les enjeux de cette compétition qui se déroule jusqu'au 18 décembre. Entretien avec Franck Orokoti, journaliste chez Africa Top Sport.
Ça fait très longtemps que cette compétition-là existe. Ça permet donc à ces pays-là de se réunir et puis de partager leurs valeurs. Et en ce qui concerne justement cette compétition par rapport à la Coupe du Monde, ça va permettre à ce que ces pays qui vont participer à la Coupe du Monde et qui sont déjà inscrits donc dans cette compétition, ça va leur permettre donc de se préparer, de se mettre en jambes, de permettre une certaine cohésion entre les joueurs. C'est vrai que certains pays d'Afrique, par exemple, ont joué tout récemment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, également les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ça va permettre à ce que ces joueurs puissent créer une certaine cohésion entre eux. Je crois que c'est très important pour eux. Parce que lorsque vous allez en Coupe du Monde, c'est vrai, il y a le talent qui compte, il y a l'individualité, mais il faut également le collectif pour essayer donc de battre les pays qui sont très nantis donc en football. Quand on prend par exemple la France, le Brésil et tout ça, si vous n'êtes pas soudés véritablement, ça sera très difficile d'affronter ces genres de pays. Les pays qu'on considère qu'ils vont prendre les trophées, qui sont des favoris.
Vous avez évoqué un partage de valeurs. Ces valeurs, comment est-ce que vous pouvez les définir?
Ce sont les pays arabes. Même quand vous voyez la dénomination de cette compétition Coupe arabe, ce sont des pays qui partagent déjà cette valeur, je dirais, de courant, qui sont des musulmans. C'est ce que je mets dans valeur.
Quelles sont les têtes d'affiche de cette Coupe arabe?
Les têtes d'affiche, il y a la Tunisie, par exemple, qui montre une sérénité au niveau de cette compétition. La Tunisie, vous voyez un peu les joueurs qui composent justement cette équipe-là. Vous comprenez que ces joueurs, ils sont chez eux, ils se connaissent très bien. surtout également le Maroc, qui a fait également une sensation lors de la dernière édition, qui est le détenteur d'ailleurs du trophée. Donc vous voyez également l'Algérie qui également qui est l'un des favoris de cette compétition qui est là également. Donc je crois que les pays maghrébins au niveau d'Afrique qui sont également favoris par rapport donc à cette compétition, mais on peut citer également les pays comme les Émirats Arabes Unis, parce que tout simplement ils ont également un championnat très très évolué. Donc je crois que voilà, ce sont ces pays-là qui sont des figures au niveau de cette compétition.
Franck Orocotti, journaliste chez Africa Top Sport. Vous êtes bien sur Radio Orient à 19h et 23h. Et si on en parlait, le thème de cette émission, le populisme s'installe au cœur du discours politique, poison ou remède pour la démocratie, point d'interrogation. Les invités d'Alexis Bachelet, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Stéphane Rosès, président de CAP, enseignant à Sciences Po Paris. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. À 15h, votre flash en langue française. Et à 17h30, votre journal en français vous sera présenté par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h16.